Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
La semaine prochaine, mercredi 8 avril, sort le film d'animation de Jamel Debbouze, Pourquoi j'ai pas mangé mon père, dont l'action se situe à la préhistoire. Franck Ferrand a sauté sur l'occasion pour nous parler cet après-midi des premiers hommes. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Mon invité est aujourd'hui Pascal Pic, maître de conférence au Collège de France et grand spécialiste de l'étude des premiers hommes, la paléoanthropologie. Avant de lui poser toutes les questions qui me brûlent les lèvres, qui vous brûlent les lèvres peut-être, je vais vous raconter les circonstances de la découverte des restes de la célèbre Lucie, notre arrière-arrière-grand-mère, ou plus exactement, semble-t-il, arrière-arrière-grand-tante.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question que vous pose Grégory via la page Facebook de l'émission.
Grégory voudrait revenir sur des origines moins lointaines que celles de l'humanité. C'est le moins qu'on puisse dire, celle de couvre-chefs comme le képi et le béret dans la tenue militaire. Pour le moment, nous repartons seulement une quarantaine d'années en arrière, dans le sillage d'une expédition en Afrique.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Les lointains ancêtres dont nous allons parler ne sont pas tout à fait encore des hommes, ce sont, disons, des pré-humains. Le tout premier d'entre eux a été découvert quasiment par hasard en Afrique australe, c'était dans le premier quart du XXe siècle, en 1924 exactement, dans une carrière de calcaire, on était en train d'exploiter le calcaire, quand est apparu celui qu'on allait donc baptiser Australopithecus africanus, l'homme singe d'Afrique australe si l'on veut. Bien sûr, ça a totalement bouleversé les études préhistoriques à l'époque. Nous allons y revenir tout à l'heure. Un peu plus tard, quand je dis un peu plus tard, une trentaine d'années plus tard, en 1959 exactement, une famille d'anglais du Kenya, les Leakey, Louis et Mary Leakey, vont fouiller dans les gorges d'Olduvai en Tanzanie, dans des terrains géologiques très anciens. Et là, ils exhument les restes d'un australopithèque de près de 2 millions d'années. Ils ont un crâne, ils possèdent une dentition, ce qui est toujours tellement important. Ils découvrent les plus anciens outils de pierre taillée jamais découverts. On peut dire que ce fossile d'Australopithèque va faire beaucoup parler de lui. Il est appelé en la circonstance Zinjanthrope, ce qui veut dire l'homme de la Tanzanie, d'une certaine manière. Alors, assez vite, on conclut, et ça faisait longtemps que les spécialistes avaient déjà cette intuition, et que cette intuition se concrétisait et s'affermissait chaque jour, on conclut que l'homme a trouvé ses origines, l'homme est devenu homme, en quelque sorte, en Afrique. Et l'on s'intéresse à toute la partie méridionale et surtout orientale du continent africain, à l'Éthiopie, tout particulièrement, où ont lieu un certain nombre d'expéditions internationales à partir du début des années 1960. Eh bien, c'est au cours d'une de ces expéditions que l'on va découvrir celle qu'on a appelée, peut-être un peu vite, la grand-mère de l'humanité. Nous sommes en 1974, en novembre, le 30 novembre 1974, dans le nord-est de l'Éthiopie, dans la région des Afar. Il y a là un gisement de fossiles très important, le gisement d'Adar. On est en bordure d'un fleuve. On n'est pas très loin de Djibouti pour, vous voyez, on est tout près de la corne. On est dans la corne de l'Afrique, en fait, hein, tout près de Djibouti, en bordure du fleuve Awash. Il faut imaginer une région extrêmement aride, à la végétation quasi inexistante, où la chaleur est très intense. Seulement, les explorateurs ne se laissent pas rebuter par ces conditions climatiques un peu difficiles, parce qu'en vérité, ils savent très bien que c'est ici que se trouvent un certain nombre des vestiges de ce qu'on pourrait appeler les premiers hommes. Une expédition a été créée 2 ans plus tôt, c'est l'International Afar Research Expedition, on va l'appeler l'IARE, c'est peut-être plus facile. Un projet qui regroupe plusieurs dizaines, on va dire une trentaine de chercheurs, ce sont des Éthiopiens pour certains bien sûr, beaucoup d'Américains et des Français. Maurice Taïeb est géologue. Il s'est associé avec le paléoanthropologiste américain Donald Johanson, qui est un élève du patron de l'équipe américaine d'une expédition qui avait été menée à Lomo en Éthiopie. Voilà ce que, dans une interview qu'il a donnée il y a une dizaine d'années au magazine La Recherche, Donald Johanson déclarait. lors d'une fête à Paris, nous dit-il. J'ai rencontré Maurice Taïeb. À cette époque, il explorait la géologie d'une partie de l'Éthiopie connue sous le nom de Triangle des Afars. Il m'a montré des photos des sédiments et des fossiles qu'il avait trouvés. Si l'on en croyait les ossements de porcs et d'éléphants, tout cela avait au moins 3 millions d'années. Dites-vous que là, vraiment, pour les spécialistes, nous parlons de périodes très reculées, 3 millions d'années. Et, ajoute Johansson, Maurice Taïeb m'a dit « Si tu penses que les fossiles de l'Homo sont fantastiques, alors tu devrais venir dans la phare. » Eh bien, j'allais dire « aussitôt dit, aussitôt fait ». Je me plais à imaginer qu'au cours de cette fameuse soirée parisienne, on diffusait des disques des Beatles, et notamment un certain disque « Lucy in the Sky with Diamonds », évidemment. L'objectif, c'est de découvrir la dépression sédimentaire de la phare. C'est une expédition... D'ailleurs, c'est très intéressant le statut de cette expédition. Il faut dire qu'elle ne faisait pas... C'était pas une expédition CNRS. En fait, cette expédition recevait des crédits de chacun des membres, plus exactement de chacune des formations dont dépendaient ses membres. Le géologue Maurice Taïeb mène donc l'expédition. Il a étudié pour sa thèse l'ensemble de ce bassin du fleuve Awash. Ça fait 8 ans qu'il est là-dessus. Et quand je dis qu'il est là-dessus, qu'il crapahute, car il faut s'approcher de sites difficiles. On y va à dos d'âne, on y va avec des jeeps, etc., bien entendu. Il a commencé par la source du fleuve, la haute vallée, puis il a descendu tout le cours de l'Awash. Et à partir de 69, il a découvert les premiers vertébrés fossiles de la moyenne vallée. En 71, il est allé présenter ses travaux à Addis Abeba, dans la capitale de l'Éthiopie, au congrès panafricain de préhistoire. En 72, dans la région de l'Afar, il a trouvé des restes d'éléphants et d'autres vertébrés. Alors il est rejoint, bien sûr, il y a un certain nombre de spécialistes sur les lieux. Il y a notamment Yves Coppens qui, déjà sur ce sujet-là, à l'époque, a une dizaine d'années d'expérience. Lui a découvert des fossiles très anciens au Tchad dans les années 60. Il a par exemple découvert des molaires d'éléphants qu'il a pu dater de 2 à 3 millions d'années. En 67, en Éthiopie, dans la vallée du fleuve Homo, qui donc est le haut lieu des découvertes d'hominidés et de faunes anciennes, Coppens a participé à une expédition internationale qui était conduite par le fameux Louis Leakey dont je vous parlais tout à l'heure, expédition qui avait été demandée par l'empereur d'Éthiopie à Haïlé Sélassié et expédition qui avait surtout permis de mettre au jour un australopithèque d'Éthiopie vieux de 2 millions et demi d'années. C'est comme si on repoussait constamment les origines de l'homme. Yves Coppens connaît bien par ailleurs Maurice Taïeb depuis des années et lors de leur première rencontre, Maurice Taïeb lui a apporté une dent d'éléphant datant de 2 à 3 millions d'années qu'il avait trouvée dans cette vallée de l'Awash. Donc, voyez un peu ce contexte d'expédition répétée, multiple, d'une certaine concurrence aussi, il faut bien le dire. En 1974, l'un des membres de l'expédition a donc fondé son propre groupe, si je puis dire, la Rift Valley Research Mission in Ethiopia. Seulement, les recherches, pour l'instant, piétinent un peu. Enfin, quand même, on fait des découvertes de fossiles incroyables. En 73, Yves Coppens va, à force d'obstination, découvrir un fragment temporal et un genou très complet. Il le baptise le genou de Claire, parce que c'était la mode du film, vous savez, de 1970, le film d'Éric Rohmer, le genou de Claire. Il faut dire que tous ces chercheurs ne manquent pas d'humour dans les noms qu'ils donnent à leurs découvertes. Et du reste, en 74, deux membres de l'IA, un Éthiopien et un Américain, Tom Gray, vont découvrir de nombreux fragments osseux sur un autre site qui devient assez vite un site à hominidés. Là, on décide d'aller plus loin et c'est là que les choses se précisent.
êtes au cœur de l'histoire sur Europe 1 et nous vous retrouvons, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur la découverte des restes du squelette de Lucie en Éthiopie en 1974.
Alors évidemment, on aimerait en savoir davantage sur la vie dans ces camps d'explorateurs, dans ces expéditions. On va y venir peut-être tout à l'heure. Je vous parlais du disque des Beatles. Il paraît que c'était devenu un peu l'emblème des membres de l'IARE. C'était leur mascotte, si je puis dire. On écoutait en boucle cette chanson « Lucy in the Sky ». With Diamonds. Donald Johansson, dans le magazine La Recherche toujours, nous dit « Tom Gray, un étudiant en thèse, a insisté pour que j'aille voir l'emplacement où un crâne complet de porc avait été trouvé. Nous sommes donc partis au milieu de la matinée et nous avons inspecté la zone pendant environ une heure, trouvant quelques ossements d'animaux. Alors que nous retournions à la Land Rover, j'ai regardé par-dessus mon épaule droite et j'ai vu, sur le sol, un morceau de coude. Un morceau de coude dont j'ai immédiatement pensé qu'il avait appartenu à un hominidé. Tom n'était pas convaincu. Il m'a demandé pourquoi je pensais cela. Je lui ai répondu « Regarde ces os de crâne, là, près de ta main !» Nous avons alors réalisé qu'il y avait des ossements tout autour de nous, mâchoires, bassins, fémurs, un squelette était répandu sur environ 14 mètres carrés de ce talus. Alors on fait la fouille, on réunit 52 fragments de ce squelette, ce qui est beaucoup. Il y a une mandibule, des morceaux de crâne, des morceaux de bassin, de fémur, etc. C'est un puzzle, bien entendu, c'est un travail d'archéologue. Johansson raconte qu'Yves Coppens est arrivé à ce moment-là avec une équipe de télé. Ses ossements formaient un squelette presque entier. Ce squelette, il fallait lui donner un nom. On était en présence, sans doute, du plus vieux représentant de quelque chose d'humain. Et le nom, il était tout donné. C'était la chanson des Beatles. On l'a appelé Lucy, bien entendu, par référence à la chanson. Découverte essentielle que celle de Lucie. Je vous ai dit qu'on avait trouvé 52 fragments osseux. Ça faisait un squelette à 40% environ, parce qu'il y avait des morceaux importants d'os essentiels. Vous savez que le squelette humain comporte 206 os. Tous les archéologues savent ça. Bon, eh bien, en avoir 52, dont plusieurs très importants, c'est déjà très intéressant. Alors, Yves Coppens et son équipe vont se consacrer à l'analyse approfondie d'une partie de ce squelette. Des chercheurs comme Pascal Pic vont se consacrer aussi à une partie de ce squelette. On va lui en parler dans un instant, bien entendu. Et assez vite, on admet qu'il s'agit d'une femelle. Je dis assez vite, on admet, en vérité, certains disent encore aujourd'hui que ça pourrait être un mâle. On verra ça plus tard. Je dis mâle et femelle parce que on ne peut pas tout à fait parler d'homme ou de femme, en l'occurrence. Lucie mesure entre 1m10 et 1m20. Elle devait peser de 20 à 30 kilos, la petite mère, vous imaginez. Elle est morte aux environs de 20 ans, semble-t-il. Ses ossements n'ont pas été dispersés et l'on pense qu'en fait, elle est morte des suites d'une noyade, probablement. Voilà ce qu'écrit Pascal Pic dans Les origines de l'homme expliquées à nos petits-enfants. Elle est morte vers l'âge de 20 ans, probablement noyée. Dans ces régions, la saison des pluies arrive brutalement. Des flots d'eau dévalent des montagnes et des collines, embarquant tout sur leur passage. Or, les Australopithèques ne vivaient pas très loin de l'eau. Lucie a dû être embarquée et ensevelie très vite, tout comme un groupe de son espèce, pas moins de 10 individus connus sous le nom de la première famille. Et oui, c'est un peu notre première famille, disons-le. La découverte de Lucie va surtout permettre aux savants d'en apprendre davantage sur les modes de locomotion de nos ancêtres. Ça, c'est absolument essentiel. Bien sûr que Lucie ressemble à un singe, il faut bien le dire. Ses membres supérieurs sont plus longs que ses membres inférieurs. L'articulation du genou est assez lâche, alors que celle de l'homme actuel est extrêmement solide. L'articulation lâche, ça permet notamment une rotation importante de la jambe, ce qui est nécessaire quand on grimpe et quand on se meut dans les arbres. La cheville également est instable, les pieds sont plats, sans voûte plantaire. Le gros orteil est très séparé des autres doigts de pied, ce qui fait penser à des doigts de main, un peu comme ceux des singes, là encore. Et les phalanges sont plates et recourbées. Les membres supérieurs sont longs, avec des mains aux phalanges longues et incurvées, nous dit Pascal Pic. Autant de caractères associés au déplacement dans les arbres, les membres inférieurs sont courts, l'articulation du genou un peu lâche et les pieds très longs avec des orteils minces et incurvés, le premier d'entre eux s'écartant des autres. Et voilà ce que nous dit Pascal Pic. Lucie a eu certainement plusieurs liaisons et pas seulement parce qu'elle était mignonne. On note une différence de taille corporelle importante entre les femelles et les mâles, ces derniers ayant des canines plus saillantes et dépassant les autres dents comme les incisives. Ça veut dire deux choses. Que les mâles étaient en compétition modérée pour la conquête des femelles, comme chez les chimpanzés, et comme ils vivaient en partie au sol, ils pouvaient tirer avantage de leur plus grande taille pour dissuader les prédateurs, ce qui permet aussi d'attirer les femelles, comme chez les gorilles. Vous avouerez quand même que pour des êtres humains, ou en tout cas pour des pré-humains, on les compare singulièrement à des chimpanzés, à des gorilles, à des singes. Qu'est-ce qui fait que Lucie est plus humaine qu'un singe? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dans un instant.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, votre émission, et nous vous invitons à réagir quand vous le souhaitez, chers auditeurs. Nous attendons vos messages et vos questions via la page Facebook de l'émission, par mail europe1.fr, par Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1 avec la suite de la découverte des restes de Lucie.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire de l'homme cet après-midi sur Europe 1 avec vous, Franck Ferrand. Nous retournons en 1974 lorsque les restes du squelette de Lucie ont été découverts par Yves Coppens et son équipe en Éthiopie.
Et voilà ce que raconte Yves Coppens dans Préludes au pluriel. Le crâne était posé sur la colonne vertébrale comme le serait celui d'un être debout. La colonne vertébrale, par ses quatre courbures successives reproduisant à peu près celle de notre propre colonne, confirmait la station érigée du personnage. Le bassin, avec sa très grande largeur et son peu de hauteur, se présentait bien comme un bassin dit en pression, autrement dit contraint dans une posture bipède de porter une partie du corps. Les fémurs obliques, par rapport à l'axe vertical du corps, rapprochaient, comme chez nous, tous les autres êtres redressés, l'axe de gravité du genou. Lucie était debout. Ça, c'est vraiment tout à fait fondamental. Lucie est un être qui marche. Pour Yves Coppens, au moment de la séparation des lignées des grands singes et des êtres humains, s'épanouit, dit-il, un vrai bouquet de préhumains dont Lucie est une des fleurs. On en trouvera d'autres de ces fleurs, du reste, dont certaines peut-être plus anciennes. On en parlera tout à l'heure. En tout cas, si elle n'est pas directement notre ancêtre, Lucie est bien notre très lointaine cousine. Yves Coppens va développer sa théorie de list size story. Vous savez, il nous explique qu'à la suite d'un changement climatique, on est là aux environs de 4 millions d'années avant notre ère. Vous imaginez, de toute façon, avant ou après notre ère, quand on est dans les millions d'années, les territoires à l'est du rift deviennent plus chauds et plus secs, contrairement à ceux de l'ouest de l'Afrique, où la végétation à l'époque est plus luxuriante. Les grands arbres vont disparaître, vont laisser place aux graminées. Pour échapper aux prédateurs, l'hominidé, se redresse. Il scrute l'horizon au-dessus des herbes et c'est cette position debout qui lui permet de courir en cas de danger. Bientôt, il va s'organiser en tribu avec un début de société. C'est très intéressant d'étudier à partir de là tout ce que l'on peut avoir, les artefacts bien entendu, mais surtout tous les éléments anatomiques. Je vous parlais de l'étude des dents, on va voir dans un instant avec Pascal Pic l'importance de tout ça. On étudie l'alimentation bien entendu, on essaie de comprendre les modes de vie, non seulement grâce à Lucie du reste, mais grâce à quelques 300 restes squelettiques d'ancêtres de l'homme, vieux d'environ 3 millions d'années, qui seront découverts toujours par cette IARE jusqu'en 1977. Si vous voulez voir Lucie aujourd'hui, il vous faut aller au Musée national d'Éthiopie d'Addis Abeba où est exposée une réplique, mais il y a beaucoup plus simple, je vous rassure, puisqu'une autre réplique est exposée dans la galerie de paléontologie et d'anatomie comparée du Muséum national d'histoire naturelle.
Where rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high.
Et nous avons justement Yves Coppens en ligne. J'en suis très heureux. Bonjour professeur. Vous nous entendez? Allô?
Oui, très bien.
Bonjour.
Bonjour.
Alors vous étiez là, vous avez vu Lucie, vous avez fait partie de ceux qui lui ont été présentés en premier, si je puis dire. Pourquoi est-ce qu'on l'a baptisée Lucie?
Oui, on s'est croisés comme ça par hasard. Non, c'était pas par hasard du tout. Bah, tout simplement parce que ces ossements, on les marque, on les note à l'encre de Chine avec un petit coup de vernis par-dessus pour ne pas les perdre, pour ne pas les mélanger à d'autres. Et quand on fait ça en général le soir parce que là, dans la journée, on prospecte. Et il se trouve que le jour où on a marqué le bassin, qui visiblement était un bassin féminin, on avait une cassette pour nous occuper un petit peu, une cassette des Beatles avec Lucie. Et comme le site où on a trouvé Lucie, on l'avait appelé Afar Localité 288.
Oui, ça, c'était pas très poétique.
On a trouvé que Lucie, c'était quand même plus joli que 288, voilà.
Alors, elle a joué un rôle essentiel. Elle est devenue une très grande célébrité, cette Lucie, puisqu'elle fait figure aujourd'hui d'ancêtre de l'humanité. Qu'en est-il réellement? Est-ce qu'on peut parler d'un hominidé?
Ah oui, on peut parler d'un hominidé. Moi, je parle volontiers de préhumain pour la distinguer, elle et d'autres, des vrais humains, du genre humain qui va suivre. Et je pense en effet, comme vous le disiez dans votre récit, qu'elle fait partie de ce vivier des préhumains, mais que ce n'est pas l'ancêtre direct. Mais peu importe, parce qu'elle nous apprend beaucoup de choses sur l'organisation du squelette à cette époque-là.
Oui, et sur la station verticale, hein, c'est
oui,
ça la grande...
Oui. C'est très étrange ça d'ailleurs. Vous savez, la nature a toujours des inventions, des espèces de bidouillages extraordinaires pour s'adapter aux conditions nouvelles. Et là, c'est drôle de voir ces préhumains, il y a une dizaine de millions d'années, probablement, qui se trouvant dans un milieu un petit peu découvert, avec une forêt claire d'une part, mais avec des prairies d'autre part, au lieu de continuer à marcher à quatre pattes, a continué à grimper, mais s'est mis debout. Alors ça, c'est étrange, parce que c'est tout d'un coup un tout autre port, un tout autre comportement, une transformation totale du corps, bien sûr, et de sa tenue et de sa stature, mais aussi du cerveau qui doit gérer tout ça.
Quand vous dites tout à coup, ça se passe quand même sur un certain temps, j'imagine.
Oui, mais vous savez, c'est le temps pour les paléontologues. C'est quelques milliers d'années, hein. C'est pas énorme. Ça se fait finalement plus vite qu'on imagine. On a vu ça récemment à propos des transformations des êtres vivants, des animaux en Indonésie, et c'est peut-être moins que ça, quoi. Moins que quelques milliers d'années.
Merci infiniment Yves Coppens. Vous savez que nous sommes avec Pascal Pic, dans le moins qu'on puisse
Pascal.
Dire.
Bonjour Yves.
Vous vous connaissez très bien, vous avez beaucoup travaillé ensemble. Alors avec Pascal Pic, dans un instant, nous allons revenir sur toute cette histoire des tout premiers hommes ou des pré-humains. Nous sommes au passage de l'un à l'autre. Merci beaucoup Yves Coppens.
Ah, c'est un plaisir.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, au cœur de la préhistoire, à l'occasion de la sortie du film d'animation avec Europe 1 la semaine prochaine, de « Pourquoi j'ai pas mangé mon père » de Jamel Debbouze. Votre invité, Franck Ferrand, le paléoanthropologue au Collège de France Pascal Pic, auteur notamment de l'ouvrage « Le retour de Madame Néandertal, comment être sapiens » paru aux éditions Odile Jacob.
Bonjour Pascal Pic.
Alors, bonjour Franck Ferrand.
Vous avez vu, vous, le film de Jamel Debbouze? Moi, j'ai pas encore eu la chance de le voir, mais vous l'avez vu récemment, là, c'est
alors,
ça hein?
Vous savez, nous, ce sont des métiers... Et Yves Coppens l'a rappelé, il faut du temps. Et d'ailleurs, c'est grâce à Yves que j'avais rencontré Frédéric Foujat, qui est un des deux réalisateurs du film avec Jamel Debbouze. Et évidemment, j'ai eu le bonheur de le rencontrer. Il y a 25 ans, il me demande « Est-ce que tu connais le roman de Roy Lewis ? Pourquoi j'ai mangé mon père ?» Là, c'est devenu...
Formidable roman.
Alors attendez, franchement, là, c'est peut-être pas le sujet, mais je travaille beaucoup sur les questions d'innovation. Le meilleur livre peut-être jamais écrit sur l'innovation et l'acceptation sociale, c'est « Pourquoi j'ai mangé mon père ?»
Oui. Conte philosophique.
Alors d'abord, le livre est de 1963, traduit par Vercors. La version française est très récente, 1991, et la version même française de la vie même de Roy Lewis est meilleur que la version anglaise. Donc c'est un moment de lecture extraordinaire.
Vraiment.
Et ce qu'on évoquait sur la bipédie, etc., est vu de façon rigolote, bien sûr, avec Jamel Debbouze et tous ses comparses. Alors, mais le film est très bien fait.
Le roman s'appelle Pourquoi j'ai mangé mon père. Ouais. On comprend pourquoi quand on lit le livre. Ouais. C'est très drôle d'ailleurs, parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est un livre drôle. Hein,
c'est
bien
hyper
entendu.
Drôle.
Et là, le film s'appelle Pourquoi j'ai pas mangé mon père? Pourquoi ce changement?
Parce que ce livre est, cette réalisation, d'ailleurs, d'un point de vue technique, c'est remarquable. L'écriture est remarquable. Je dis pas ça parce que ce sont mes copains. Mais vraiment, j'ai passé un très bon moment. Et surtout, je suis pas allé pour voir une adaptation de Pourquoi j'ai mangé mon père. Et là, évidemment, il s'est inspiré des grands personnages et des grands moments quand même qui sont quasiment canoniques dans l'histoire de la littérature autour de la préhistoire. Et c'est en fait une histoire entre le passage des grands singes à l'homme, donc ce qui nous ramène à Lucie. Voilà.
Alors, à Lucie et à ses préhumains. Donc ça, c'est quand même très passionnant. Il faut qu'on fasse d'emblée la distinction entre ces préhumains et les singes, tout simplement. Qu'est-ce qui les différencie, Pascal Pic?
D'abord, je ne vais pas vous faire paniquer, mais on fait encore partie des singes. Pour nous, les anthropologues, non, mais les simiens, c'est un très grand groupe qui comprend plus d'une centaine d'espèces aujourd'hui, dont les hommes et les grands singes. Derrière cela, il y a une lignée, vous l'avez très bien dit, ce sont les hominidés. Et Yves Coppens l'a bien rappelé, hominidés, c'est la branche qui va contenir les hommes, bien sûr, et avant, ce qu'on peut appeler les préhumains, mais qui sont très diversifiés aujourd'hui, en comparaison de l'autre lignée qui donnera les chimpanzés et les gorilles, mais là, on n'est pas tous d'accord. Donc voilà. Hominidés, c'est la branche qui se sépare vers 6-7 millions d'années en Afrique de celle qui donnera d'un côté les chimpanzés, qui, je le rappelle, sont pas restés en panne d'évolution, et de l'autre côté, donc, le grand paquet des préhumains, dont les australopithèques, et après les premiers hommes.
Alors, ces australopithèques, on a commencé à les découvrir au début du XXe siècle, c'est donc très récent. Il y a toute une partie de la préhistoire, de l'histoire de la préhistoire, si je puis dire, hein, qui ignorait leur existence. C'est-à-dire que on ne savait pas d'où ils venaient exactement. Pourquoi les chercheurs se concentrent-ils spécialement sur l'Afrique australe et orientale?
Alors, ça va venir très tard. Il y a un siècle, la préhistoire et la paléanthropologie, qui sont très liées. Hein. Il faudra attendre d'ailleurs qu'Yves Coppens ait la chaire de paléanthropologie et préhistoire en 1982 pour bien dissocier les deux disciplines. Ça, c'est déjà une chose extrêmement importante. La deuxième chose, Charles Darwin avait très bien dit en 1871 qu'il fallait chercher nos origines là où sont les grands singes aujourd'hui. Mais l'Europe d'il y a un siècle est colonisatrice, raciste, dominante, arrogante. Et on cherche...
Et européocentriste.
Et alors là, complètement. Et on va chercher nos origines en Europe. Alors surtout qu'on avait un modèle en tête, qui n'était pas celui de Darwin d'ailleurs. On avait un modèle en tête. Il y a deux grands modèles pour expliquer les origines de la marche debout. Le modèle, pardon pour le terme, ilobatien, ça vient des gibbons. Les gibbons sont d'élégants grands singes qu'on a en Indonésie, qui suspendent auprès de leurs grands bras. Et lorsqu'ils sont au sol... Il marche debout, comme un petit peu des funambules, mais au sol. Et là, ça veut bien dire, et Darwin l'a très bien vu, que marcher debout, ça vient directement du monde des arbres. Alors ensuite, comme disait Yves Coppens, ça va se renforcer dans les milieux verts. Hein. La deuxième chose, c'est que, et ça, je n'ai pas encore élucidé d'où ça vient, il y a un retour sur la vieille image qui nous vient d'Aristote. Vous connaissez la grande procession des individus qui se redressent, qui est très marquée dans nos mythologies, dans le rapport à l'autre. Et ça va revenir, et c'est le modèle du chimpanzé, qui n'y sont pour rien, les pauvres gars, hein, ils n'ont rien demandé dans cette affaire. Mais on attendait en Europe, en fait, si vous voulez, un chaînon manquant, comme on l'appelait à l'époque, avec un corps de chimpanzé et une tête d'homme. Et voilà que Raymond Dart en Afrique du Sud, en 1924, arrive dans les colloques de paléanthropologie avec un australopithèque, donc qui marche debout, mais avec une tête de singe pour faire simple. Donc évidemment, on n'a pas du tout accepté cette affaire-là. Et ça mettra du temps. C'est Louis Leakey, vous l'avez très bien rappelé, qui en 1959 dira effectivement, c'est en Afrique. Et il reprend évidemment le schéma, l'hypothèse proposée par évidemment Charles Darwin. Mais attendez, même lorsqu'on va découvrir Lucie, daté de 3,5 millions d'années à l'époque, vous avez donné beaucoup de dates qui étaient très précises. C'est très important ce que vous avez fait, car il faut bien se rendre compte qu'avant 1960, on n'avait pas de date absolue.
Bien sûr.
C'est pour ça qu'à l'époque, on commence à bien mettre la chronologie en ordre. Et derrière cela, moi, je venais du monde de la physique, hein, quand Yves Coppens découvre le genou de Lucie.
Vous êtes un scientifique, si je puis dire.
Ouais, alors moi, je viens des sciences plus dures, si je peux me permettre, je pensais pas faire ce métier, donc j'ai rencontré Yves Coppens, Bernard Vandermeersch, on y reviendra certainement. Mais là encore, quand je rentre dans l'enseignement de la paléanthropologie, on a Lucie en Afrique, mais on va encore chercher, parmi les préhumains des préhumains, si je peux me permettre, encore du côté de l'Asie, avec les Ramapithèques, Sivapithèques, qui sont aujourd'hui les ancêtres des orang-outans.
C'est-à-dire qu'on n'a pas de, on n'a pas de, d'idées très arrêtées encore. Hein,
non.
On cherche en quelque
Alors,
sorte.
Alors, la
hein.
première théorie cohérente, soyons très clairs, entre Charles Darwin et Yves Coppens, bah c'est Yves Coppens, c'est l'Isaac Story, qui tient compte effectivement des données de la paléontologie.
Encore une référence au, au monde du cinéma et du showbiz.
Ah ben complètement. Hein. Ah ben absolument. L'Isaac Story, c'était le West Side Story à l'époque.
C'est East Side.
Voilà. Et donc, très clairement, c'est la première fois qu'on a vraiment une hypothèse scientifique, ça veut dire quoi? Qui tient compte de l'ensemble des connaissances disponibles. Alors celle-ci à l'époque, alors pardon pour le terme, mais c'est important pour les, nos auditeurs et auditrices, s'appelle la consilience. Pardonnez-moi pour ce terme barbare. Ça veut dire quand...
Et on va l'apprendre, ça tombe bien.
Et ben voilà, quand différentes disciplines indépendantes convergent sur le même modèle. Donc Coppens fait exactement cela. Il nous dit, tous les plus anciens fossiles, dont Lucie d'Afrique, sont à l'est. À l'ouest des vallées du Rift, que vous avez évoqué, nous avons que des grands singes actuels, mais pas de fossiles. Les géologues Maurice Taïeb et sa descendance, si je peux me permettre.
On me parle aussi du professeur Camille Arambourg.
Oui,
aussi,
alors ouais. ça sera l'expédition, vous l'avez cité tout à l'heure, avec Louis Leakey et avec Camille Arambourg. D'ailleurs, Camille Arambourg et Yves Coppens trouveront un Australopithèque qu'on appellera plus tard Australopithecus aethiopicus, qui est un intermédiaire entre Lucie et les formes plus robustes d'Australopithèque. C'était confirmé en 1985, donc une petite vingtaine d'années plus tard. Et derrière cela, donc, Coppens tient compte aussi du fait que la génétique arrive à cette époque-là. On peut mieux classer. Et ils nous disent, les généticiens, qu'on s'est séparés vers 5-6 millions d'années. Et les géologues, ce que j'évoquais, nous disent, les vallées du Rift se déforment. Donc Coppens prend tout ça ensemble. Et c'est la première fois qu'on a, depuis Darwin, un modèle testable. Vous savez qu'une hypothèse scientifique, c'est quelque chose qu'on doit vérifier. Et surtout, de montrer si elle est solide. Et donc derrière, donc, l'Isaac Story va se confirmer jusque l'an 2000, avec la découverte d'Aurorine. Alors pour le coup, on est cette fois-ci vers 6 millions d'années, c'est deux fois plus ancien que Lucie.
Oui.
Ça, c'est l'an 2000. Donc on est autour du dernier ancêtre commun avec les chimpanzés.
Alors, il faut bien dire ce que c'est que le dernier ancêtre commun.
C'est le dernier représentant à partir duquel vont se séparer la lignée qui donnera les hominidés, donc la lignée humaine avec les australopithèques, et de l'autre côté, la lignée qui donnera les chimpanzés, et bien sûr d'autres qu'on est en train de découvrir, mais je ne veux pas vous en mêler.
Donc avec tous ces grands singes, nous avons un ancêtre commun, on cherche le dernier possible, c'est celui-ci qui nous intéresse. On était à 3 millions d'années avec Lucie, vous nous dites qu'on est passé à 6.
On est à 6-7 millions d'années. En l'an 2000, le fossile du millénaire sera donc Aurorine tungenensis du Kenya, qui marche pas mal d'ailleurs, il a un fémur étonnant. Alors côté de la tête, c'est vraiment de l'archaïque. mais il est comme ça. Hein. Attendez, il a aussi la morphologie de son époque.
On jouerait pas aux échecs avec lui, si je comprends bien.
Non. Il prenait pas son roi. Et l'autre côté, deux ans plus tard, patatras d'une certaine manière, c'est la découverte par Michel Brunet et ses équipes donc de Toumaï, qui est 6-7 millions d'années. Et là, je voudrais faire un point important sur la manière dont fonctionne la science. Il y a des gens qui disent, ouais, alors Coppens s'est trompé, parce que c'est vrai que Toumaï est 2500 km à l'ouest de l'Isaac Story, quoi. Donc, alors, mais c'est pas ça la science. La science, c'est de proposer un modèle qui donne, rend compte de l'ensemble des données disponibles, et l'Isaac Story remplissait cette première fonction. Et deuxièmement, à partir de là, on va développer des recherches à la fois pour consolider le modèle, ça sera Brigitte Senu, Martin Pickford du Collège de France avec Aurorine, et l'autre côté, eh bien, il fallait bien voir à l'est, et Michel Brunet partira, vous l'avez rappelé, Yves Coppens avait fouillé avec Camille Arambourg donc au Tchad, et Michel Brunet n'est pas parti middle of nowhere, comme on dit chez les gens branchés, et c'est de là que viendra Toumaï. Donc on a perdu un modèle, mais on a fait avancer les connaissances. C'est comme ça que fonctionne la science.
Oui, et en même temps, on se demande jusqu'où on va remonter comme ça. On est déjà 7 millions d'années, vous vous rendez compte?
Ou alors là, il va falloir s'arrêter, franchement.
Mais oui, c'est ce que je me dis aussi.
Parce que tout fossile autour du dernier ancêtre commun, c'est une tautologie, ce que je vais vous dire, c'est une banalité logique. Il a forcément des caractères qui évoquent la lignée humaine et la lignée des chimpanzés. Et il y a, me semble-t-il, là c'est l'avis de Pascal Pic, que très clairement, il y a un biais dans l'analyse. Tout caractère qui évoque la lignée humaine est considéré d'office comme évolué par rapport au grand singe. Donc, on va mettre ce fossile sur notre lignée. Et je pense que quand les chimpanzés vont être au courant, ils vont réclamer leur crâne, ces gars-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, aujourd'hui, là, on a les fossiles. On est très proche du dernier ancêtre commun. Il faudra d'autres éléments fossiles. Ça, on est bien d'accord. Mais nous sommes plus sur une question d'analyse, de compréhension des mécanismes de l'évolution et de la séparation de ces lignées.
Alors là, nous sommes remontés très très loin, même dans des périodes qu'on ne peut même plus visualiser mentalement ou très difficilement. Oui. Je vous propose de redescendre maintenant, pour voir ce que sont devenus ces premiers hominidés et comment enfin ils ont accédé au statut d'homme.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Il y a 3 millions d'années que je dormais dans la tourbe, quand un méchant coup de pioche me trancha net le col et me fit effectuer une gracieuse courbe, à la fin de laquelle je plongeais dans le formol. D'abord on a voulu me consolider la face, on se mit à me brosser mâchoire et temporale, suivi d'un shampoing au bichromate de potasse. Puis on noie une faveur autour de mon pariétal. Du jour au lendemain, je devins une vedette, journaux, télévision, y en avait que pour moi. Tant et si bien du reste que les autres squelettes, se jugeant délaissés, me battaient un peu froid. Enfin les scientifiques, suivant coutume Zeus, voulant me baptiser de par un nom latin, m'ont appelé pité entre Robus Erectus. Erectus, ça me va bien, moi qui étais chaud la fin.
Serge Reggiani sur Europe 1, on écoutait L'Homme Fossile. Nous sommes aujourd'hui au cœur des origines de l'homme avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Pascal Pic, paléoanthropologue au Collège de France.
Alors, il faut que vous soyez moins modeste, Ombline, et que vous nous disiez ce que vous avez fait le week-end dernier, parce que ça avait l'air passionnant, là, à l'instant.
Oui, avec ma petite famille, nous nous sommes rendus au musée des Confluences, qui est situé à Lyon, un musée tout récent, et vous venez de m'apprendre, Pascal Pic, que vous êtes à l'origine de la section aux origines de ce musée.
Avec quelques collègues remarquables, donc Elisabeth de Fontenay par exemple, voyez, pour ne pas la citer. Et c'est une chance extraordinaire dans la vie d'un chercheur que de partir d'un musée depuis zéro, parce que les musées souvent ont des collections depuis longtemps, il y a des contraintes liées à l'histoire, et c'est tout à fait compréhensible. Et franchement, je le dis très clairement, il y aura un avant et un après pour la muséographie avec ce musée des Confluences, qui est vraiment exceptionnel dans
c'est
ses messages,
qu'il faut dire,
très pédagogique, dans une scénographie absolument merveilleuse. C'est la scénographe, pardon, j'ai oublié son nom, c'est quelqu'un d'absolument extraordinaire, celle qui s'occupera d'ailleurs du futur musée de l'Homme au passage. Et derrière cela, c'est un projet qui a commencé avec Monsieur Michel Côté, qui est un des grands muséographes du Québec. Et donc voilà, c'était vraiment une aventure exceptionnelle, et les retours du public nous le rendent bien. On en est heureux parce que c'était 10 ans de travail exceptionnel.
Eh bien, il va falloir organiser un déplacement, un de ces jours au musée des Confluences, pourquoi pas. Alors en attendant, voyons naître l'homme, Pascal Pic, parce que quand même, là vous nous avez fait remonter très 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 loin. Redescendons vers l'homme. À quel moment peut-on parler véritablement d'un être humain et non plus pré-humain ?
Alors jusqu'à présent, on était tout à fait d'accord, Yves Coppens et moi.
Mais ça se gâte.
Mais là, ça se gâte avec les premiers hommes. Parce que d'abord, je vais vous dire, personne n'est d'accord. C'est très compliqué. Alors, il y a à peine 15 jours, on a annoncé une mandibule datée de 2,8 millions d'années dans la même région que celle où a été trouvée Lucie. Très franchement, c'est encore... alors, c'est le vide Pascal Pic, de l'Australopithèque. Et en gros, on a une grosse difficulté, c'est qu'entre 2 et 3 millions d'années, on sait que le genre humain, homo, donc le genre humain, apparaît, mais à partir de quel Australopithèque ? Et ça fait 50 ans qu'on n'y arrive pas. Parce que, Yves Coppens l'a dit d'ailleurs, l'évolution, ça peut aller très vite. Ce qu'on appelle chez nous la théorie des équilibres ponctués. Donc, les espèces ou les communautés écologiques présentent une certaine stabilité pendant 500 000 ans ou 1 million d'années. Ça dépend des circonstances, bien sûr. Et puis, à un moment donné, une nouvelle espèce apparaît ou plusieurs espèces. Et ça, ça s'appelle une ponctuation. Alors, ça prend quelques millions d'années. Quelques milliers d'années.
Mais quelques secondes à votre échelle.
Et voilà, mais à notre échelle, à nous d'aujourd'hui, c'est un instantané. Et trouver les intermédiaires, c'est très complexe. Donc, on sait que forcément, il y a des formes intermédiaires, mais on ne les a pas. Et aujourd'hui, se dessine un schéma qui est à peu près le même sur l'Afrique du Sud et l'Afrique de l'Est. En Afrique du Sud, il y a donc ce groupe des Australopithèques dits graciles, donc les plus anciens, donc les moins robustes. Et un Australopithèque qui s'appelle Sediba a été annoncé il y a à peu près un an, enfin confirmé il y a un an par nos collègues d'Afrique du Sud. Ils disent qu'ils sont près du genre homo. Et cette nouvelle mandibule, cette fois-ci d'Afrique de l'Est, nous donne le même schéma. Et c'est intéressant parce que Lucie revient un petit peu en selle, si je peux me permettre, proche des origines du genre homo.
On la connaissait marcheuse, mais pas cavalière, jusqu'alors.
Voilà, exactement. Et il semblerait que se dessine une autre lignée. Il y a celle qui va donner les formes très robustes qu'on évoquait, d'Australopithèque. Alors, on les appelle les Nutcrackers, les casse-noisettes. Donc, c'était Machoucrève, pardonnez-moi. Et peut-être une lignée qui est proche des origines de l'homme, mais qui se dissocierait de la même façon en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est. Et pour l'instant, franchement, les premiers hommes, ça reste une question qui est loin d'être tranchée. Rappelons que nous les avons en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud. Michel Brunet a bien montré qu'il y en avait aussi en Afrique centrale. Les Australopithèques avaient une répartition géographique beaucoup plus grande que celle qu'on évoque habituellement, et que les origines du genre homo sont encore une question. On s'en rapproche, mais on a encore un trou béant pour deux raisons. Le manque de fossiles, deuxième raison, le manque d'accord certainement sur une définition consensuelle sur ce que serait le premier homme. Voilà, c'est la science, on va éclaircir les choses. Hein,
ça, ça viendra petit à petit, mais enfin, en même temps c'est bien de laisser un peu quand même de grain à moudre aux chercheurs du futur.
Bah,
c'est
évidemment, on ne va pas laisser comme ça. Hein.
Alors il y a Homo sapiens, ça c'est nous si je puis dire.
Absolument.
Alors ça, quand est-ce que nous apparaissons nous sur la scène de la préhistoire?
Alors les premiers hommes, le genre Homo, c'est l'Afrique, mais il y a exactement 20 ans, on a eu une grosse surprise lorsque des collègues, et j'explique les circonstances dans mon dernier livre, des collègues russes, archéologues donc, trouvent dans une fouille pour le Moyen-Âge, à Manissy en Géorgie, ils creusent, et Dieu merci, heureusement, contrairement à la France, les archéologues russes sont formés aussi bien sur le Moyen-Âge que la paléanthropologie, ils tombent sur une mandibule, et je dis ça, c'est un truc qui n'est pas habituel dans le coin. Alors qu'on pensait qu'à l'époque que le genre humain était sorti d'Afrique vers 1 million d'années, on tombe à 1,8 million d'années. Et donc on revient sur l'interrogation précédente, ces hommes et ces femmes de Manissy présentent une grande diversité en termes d'anatomie, des crânes, et donc voyez, on a une espèce de grande province écologique qui va de l'Afrique de l'Est jusqu'au sud de l'Europe, et ça explique peut-être pourquoi le genre homo nous échappe encore. Alors à partir de là, c'est très clair, le genre homo se déploie sur l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Et le genre Homo, ce que j'explique dans mon livre précédent de Darwin à Lévi-Strauss, c'est une espèce qui prend beaucoup de place sur le plan écologique. Et très vite, nous allons éliminer les descendants de Lucie et nous allons prendre une place extraordinaire d'un point de vue écologique. Après cela, on ne sait pas trop ce qui se passe. On a des fossiles, mais on n'a pas le schéma. Mais le schéma se reprécise. D'une part, parce qu'avec le genre Homo, on a de plus en plus d'outils. Donc l'archéologie vient nous donner un cadre plus solide pour caler les fossiles, qui sont plus rares. Et puis la paléogénétique. Vous savez que maintenant, on arrive à extraire de l'ADN fossile dans des régions qui sont plus au nord, donc septentrionales. Et nos amis généticiens nous apportent énormément de nouvelles données. Et le schéma qui se profile sur la fin de la préhistoire, c'est qu'en gros, il y a les petits hommes de Flores. Alors c'était certainement des Homo erectus à Java, le pithécanthrope chanté par Edjani d'ailleurs, qui ont dû être poussés par des volcans ou des événements comme ça pas très sympathiques, et qu'on avait navigué à vue, et ils se sont retrouvés sur l'île de Flores. Et là, il y a beaucoup de controverses bien sûr, mais dès qu'une grosse bête, parce que l'homme est une grosse bête, les grosses bêtes deviennent naines sur les îles et les petites deviennent grandes. Donc on les appelle les Lilliputiens pour nous, les Hobbits pour nos amis anglo-saxons, mais chacun sa culture, mais en tout cas voilà.
C'est ils les ont petits rapetissé en fait.
Ah, ils ont rapetissé, pas plus d'un mètre, plus petit que Lucie. Sur donc l'Europe, l'Asie et l'Afrique, nous savons à la suite d'une découverte, alors je respecte tout ça dans mon dernier livre justement, parce que ça parle beaucoup de cet apport de la paléogénétique.
Ça s'appelle de Darwin à Lévi-Strauss, l'homme et la diversité en danger, votre livre précédent.
C'est l'expansion et le nouveau.
Et l'actuel, voilà. C'est le retour de Madame Néandertal, ça on va y venir.
Dans lequel j'évoque tout ça, donc effectivement nos collègues russes ont découvert dans une grotte à Denisova, dans l'Altaï, donc au sud de la Sibérie, une phalange. Alors on sait que c'est une phalange humaine, on en a extrait l'ADN, et la surprise, c'est une autre lignée humaine qui se dissocie, semble-t-il dans l'état actuel des choses, au cœur de l'immense Russie, vers 1 million d'années.
Il y a un peu plus récent.
On se rapproche. Alors, il y aura ensuite un tronc commun qu'on appelle, pardon pour le terme, Heidelbergensis, qui est le tronc commun de Néandertal et nous, qui va se séparer vers 500 000 ans. Alors là, les fossiles et l'ADN sont d'accord. Au nord, ce sera le domaine de Néandertal. Donc, ils vont évoluer sur l'Europe glaciaire. Mais on sait maintenant, les dernières données sont claires, ils vont aller jusqu'en Sibérie. Les données sont très récentes. Et au sud de la Méditerranée, ce sera nous. Et tout ce petit monde va se rencontrer, bien sûr, au Proche-Orient. Nous, les Homo sapiens, les plus anciennes traces fossiles, nous viennent pour l'instant d'Afrique de l'Est, dans la vallée de l'Homo, une fois de plus, c'est autour de 250 000, 300 000 ans.
Donc ça, c'est l'arrivée de ce qu'on appelle Cro-Magnon chez nous.
Ensuite, ça, c'est l'Homo sapiens. Au nord, c'est Néandertal. Et puis, la version moderne d'Homo sapiens. Donc c'est les hommes modernes, donc vous et moi.
Sapiens, sapiens.
Donc sapiens, on peut dire, j'aime pas trop sapiens, sapiens pour des raisons historiques, on va dire sapiens, mais une fois qu'il va pousser, et c'est là qu'il se passe quelque chose d'unique dans l'histoire de la vie. Ce n'est même jamais arrivé pour les autres espèces humaines. Notre espèce, Homo sapiens, l'homme moderne, sa version moderne, vers 100 000 ans, vous lirez encore vers 50 000 ans, mais ça a été un peu vieilli récemment grâce à l'archéologie. Notre espèce, Homo sapiens, va entamer une expansion. Depuis l'Afrique, via le Proche-Orient, la péninsule arabique, comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Et là, ce n'est pas poussé que par les fluctuations climatiques, qui ont joué un rôle important, Coppens l'a bien rappelé, mais ça va être de notre propre volonté. Il y a quelque chose dans le crâne d'Homo sapiens
qu'il lui faut découvrir des horizons.
Il va au-delà des horizons. Alors accrochez-vous, nous sommes en Australie, et même peut-être en Amérique du Sud, et là, il faut naviguer, c'est la navigation tourière,
avant d'être en Europe. Alors vous allez me dire pourquoi. Donc j'anticipe, donc je réponds à votre pourquoi que j'ai dit à votre place. Pardonnez-moi, je fais tout. Et là, pourquoi? Parce
vous allez lancer la publicité tout à l'heure.
Ah, pourquoi pas? Bien, parce que lorsque nous poussons vers le nord, bien sûr, Afrique orientale, Proche-Orient, et c'est ça que je raconte, le couloir de la mer Noire, c'est-à-dire le corridor entre mer Caspienne et mer Noire, c'est là qu'on trouve d'ailleurs les plus anciens hommes, je l'ai dit, de Manissi, donc en Géorgie, c'est dans ce coin-là, eh bien, ils vont pas passer comme ça, nos chers homo sapiens, c'est-à-dire vous et moi, parce qu'il y a quelqu'un qui est très bien installé, c'est justement Néandertal. Et là, nous partons sur 10 000 ans de cohabitation, ce que je raconte dans ce livre.
Nous avons reçu ici même Marilène Patoumatis il y a quelques mois, qui a écrit un livre assez humoristique sur qui s'appelle Madame de Néandertal. Elle lui ajoute une petite particule et qui nous expliquait qu'en fait, il n'y a pas eu spécialement remplacement de Néandertal par Sapiens, par Cro-Magnon, que ça s'est fait beaucoup plus lentement, sur une très longue durée, et qu'il y a probablement eu fusion des deux en partie.
Alors, fusion, non. Il faut reprendre.
C'est moi qui ai mal compris.
Non, vous avez bien compris, mais la situation n'est pas si simple que cela. Alors, Marilène est une très grande amie, je la salue, et en plus, ce livre est parti d'un échange avec elle, donc le sien comme le mien d'ailleurs, c'est assez rigolo. Et en gros, ce qu'on est en train de bien comprendre, c'est que Néandertal était installé, bien sûr, sur la France, l'Allemagne, la Belgique, etc. Et ça, ce sont les Néandertaliens classiques, qui sont très marqués, très évolués sur leurs caractéristiques de Néandertaliens. On a ceux du Club Med, pardonnez-moi, qui sont sur l'Espagne, un peu sud de la France, l'Italie et la Grèce. Alors, ils n'ont rien à voir avec la dette, mais ce sont ceux-là. Eux sont un peu moins dérivés, c'est-à-dire moins engagés dans la lignée néandertalienne. Et puis ceux qu'on a ignorés pendant longtemps, et c'est ceux-là que je décris, qui sont justement ceux du corridor de la mer Noire, qui sont allés jusqu'en Sibérie. Et vous comprenez bien, et ça c'est la génétique des populations. Au Proche-Orient, on se rencontrait. D'accord. Donc forcément, il y a eu des transferts de flux génétiques depuis 500 000 ans avec ce qui n'était pas encore les Néandertaliens et les Homo sapiens. Par contre, vous comprenez bien que ceux qui étaient en France et en Allemagne, qui étaient déjà très dérivés, le terme est clair, ne pouvaient certainement pas engager de rapports sexuels, si, mais d'échanges génétiques avec, par exemple, des populations de nous venant du sud du Sahara, par exemple. Par contre, ceux qui étaient au Proche-Orient, il n'y a jamais eu de rupture totale génétique. Donc, ils étaient moins dérivés. Donc, il y avait toujours possibilité d'échange génétique. Et c'est ce qui se passe. Je reprends une étude récente de l'ADN de Mesmaskaya, donc dans la région d'Adiguée. Donc, cette femme de Néandertal est clonée. C'est madame Mesmaskaya d'Adiguée. Donc, en fait, ce livre, c'est les lettres persanes, mais version paléanthropologie. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, parce que c'est des études très récentes, que les caractères peau claire et les cheveux blonds, etc., ça vient d'échanges génétiques avec les hommes et les femmes de Néandertal. Donc, il y a eu un peu d'absorption génétique et aussi culturelle.
Pas fusion, un peu d'absorption, nuance.
Ce qu'on appelle l'introgression, voilà. Absolument.
Le retour de Madame de Néandertal, comment être sapiens, de Pascal Pic, c'est édité chez Odile Jacob. Merci beaucoup, Pascal Pic.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et Franck Ferrand, vous répondez à la question de Grégory qui, via la page Facebook de l'émission, vous demande quelles sont les origines du port, du béret, du képi dans les armées.
Oui, et du reste, Pascal Pic me faisait remarquer l'incroyable diversité, l'inventivité foisonnante dont ont fait preuve les êtres humains dans toutes les civilisations pour ce qui est dès lors qu'il est question de couvre-chef, de coiffe, de chapeau, etc. C'est vrai qu'il y en a tellement, on pourrait faire des collections, et d'ailleurs c'est le cas, absolument extraordinaire. Alors pour ce qui est du képi et du béret dans les armées, dites-vous que c'est très récent, l'un comme l'autre du reste. Le képi, c'est un dérivé du shako, qui était la coiffe des hussards, vous savez, à partir du début du 19e siècle. Le shako, c'était une coiffe à visière, cylindrique, un peu évasée vers le haut. La forme a évolué au fil du temps, le shako est devenu de moins en moins haut, de moins en moins évasé. En 1843 apparaît le premier képi en tant que tel. C'est dans l'infanterie, on l'appelle pas encore le képi à l'époque, c'est le bonnet de police à visière. Et puis, évidemment, avec la guerre moderne et l'évolution du casque notamment, on a un peu laissé tomber le képi. On le garde pour les cérémonies, bien entendu, pour ce qu'on appelle la parade. Les cadres notamment continuent de le porter. Et vous savez qu'il est l'emblème, le képi blanc en tout cas, de la Légion étrangère. Pour ce qui est du béret, alors le béret, c'est d'abord une coiffure traditionnelle. Cette coiffure en laine, plate, sans bord, sont les bergers béarnais au départ qui portaient le béret, qui protégeaient du soleil, du vent, de la pluie aussi. Il n'apparaît dans les armées qu'en 1889, pour la première fois chez les chasseurs alpins, qui portent le grand modèle 30 cm de diamètre. Ça, c'est très spectaculaire. Ils portent ce qu'on appelle la tarte. Eh bien, j'en profite pour saluer tous les chasseurs alpins qui nous écoutent. Je sais qu'ils sont nombreux.